Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Ravi de vous retrouver à cette heure tardive où on baisse les lumières et où on monte le son de sa radio. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin pour partager des moments de vie, des malheurs mais aussi des joies, des doutes, des questionnements. Alors si vous avez envie de partager tout cela avec nous, ce soir, appelez-moi au 3921. Autour de Romain qui réalise notre émission, Cindy et Nicolas sont prêts à vous accueillir au Standard Europe 1 et à vous guider bien sûr jusqu'à moi. Si vous préférez participer par SMS aux échanges, vous faites le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Vos SMS pour enrichir un débat, proposer une idée ou du soutien, ou pour demander à être mis en relation avec quelqu'un hors antenne, 739-21, le mot nuit et votre message. Le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir un autre regard, disait en substance Marcel Proust. Alors ensemble, ayons ce soir encore un autre regard sur les choses de votre vie. A tout de suite.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et chose promise, chose due, on commence cette émission avec vous Catherine, bonsoir.
Bonsoir Sabine, comment allez-vous?
Ça va, merci à vous d'être là, on s'était donné rendez-vous ce soir pour poursuivre notre conversation d'hier.
Oui, je vous remercie. Donc, si je me souviens bien, vous m'aviez demandé, enfin, soumettez comme quoi mes emplois en mairie me convenaient bien.
Alors pardonnez-moi Catherine, juste pour les gens qui n'étaient pas là hier, je vais me permettre de résumer un tout petit peu pour que
qu'on puisse raccrocher
les wagons pour tout le monde.
Oui, c'est vrai.
Vous m'aviez rappelé en réaction à l'appel de Romy il y a quelques jours. Romy qui constatait l'enchaînement d'échecs dans sa vie professionnelle et on avait révélé avec elle une blessure de rejet et d'humiliation liée à ses parents. Hier, vous m'aviez dit au départ que vous aviez l'impression d'avoir un peu le même parcours. Et finalement, je me rendais compte en vous écoutant que ce n'était pas vraiment ça. Parce que vous aviez visiblement une relation plutôt bonne avec vos parents, si j'ai bien compris. Mais des boulots qui ne duraient pas, on va dire. Vous avez enchaîné à chaque fois des contrats qui, au bout d'un mois, deux mois, tournaient court.
Oui, mais pas toujours, heureusement. Mais on va dire quelques-uns.
Il y en a eu beaucoup, en tout cas.
Oui, il y en a eu quand même depuis mon licenciement. La question que je me posais, pourquoi ce schéma se reproduit. Après, entre 2009 et puis, c'est-à-dire janvier 2020, mon travail à la mairie de ma commune, donc j'ai enchaîné plusieurs CDD. Deux exemples précis, j'ai fait des remplacements en tant que comptable unique et ça s'est très bien passé. Un CDD de 6 mois également, puis spécialisé, comptabilité fournisseur, très bien passé, assistant RH pendant 8 mois aussi, donc j'ai quand même eu de la réussite, mais si vous voulez, j'ai tendance pas à oublier, mais je ne supporte pas les échecs, quoi. C'est ça peut-être.
Et ma question effectivement était, est-ce que vous travaillez dans un milieu finalement qui vous convient? J'avais des doutes là-dessus, est-ce que c'est finalement ce qu'il vous faut ou pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dessous?
C'est pour cette raison, hier, après avoir accroché, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez proposé, c'est-à-dire que j'ai appris sur le terrain, comme on dit, de travailler dans les mairies, donc peut-être que mes ex-collègues le ressentent ou se sont plus fortes, puisque ce n'est pas du tout ma formation. Après, il y a des choses que j'ai fait régulièrement sur le logiciel de l'état civil, donc ça me plaît et j'arrive à le maîtriser pratiquement, mais il y a des choses que je ne sais pas faire du tout, donc j'ai beaucoup à apprendre et peut-être que ça dégage quelque part en moi et qui est perçu par les autres un manque de confiance qui peut se comprendre puisque j'ai peut-être pas assez de compétences et d'expérience, et en réfléchissant bien, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise, plus sûre de moi. Quant à mes expériences de comptable RH ou secrétaire administratif, puisque j'ai mon diplôme et j'ai de nombreuses années d'expérience et compétences, quoi. Donc je suis plus autonome. Donc voilà, est-ce que c'est ma voix, sachant que c'est j'aimerais bien effectivement, j'aurais quand même une préférence pour la comptabilité et puis la paye et ainsi l'administratif, mais j'ai du mal à trouver ne serait-ce que des offres qui correspondent pratiquement dans tous les points à ce que je sais faire, quoi. Ou alors il y a j'habite dans une région très touristique, donc j'ai relu ce soir une annonce, la maîtrise de l'anglais, voire une deuxième langue étrangère est exigée. Vous voyez, il y a tout le temps quelque chose des fois qui fait que je ne peux pas postuler à certaines offres.
Alors au-delà de ça, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée hier soir au moment où on s'est quitté.
Oui.
Vous m'avez dit, est-ce que tout ça ne serait pas lié à la faillite qu'a fait mon père ?
Oui, voilà, c'est ça.
Et ça m'intéresse vraiment comme axe. Je vais vous expliquer après.
Oui.
Racontez-moi un petit peu ça.
Oui, alors mon papa et ma maman ont repris la suite des personnes qui partent à leur retraite dans les années 62. Donc autocariste et maman faisait le taxi. Donc pour vous dire, je suis l'aînée de 5 enfants, donc ça m'a beaucoup plu. D'ailleurs, même sur le, ça a toujours été un rêve de petite fille que j'ai jamais concrétisé, c'est-à-dire passer mon permis CD, oui, transport en commun, pour parce que dans toute la famille du côté de papa, on a tous conduit un car et c'est quelque chose peut-être que je regretterai toute ma vie, quoi. Et donc, suite à beaucoup de choses, papa, j'espère que de là-haut, il ne m'en voudra pas. Maman était gestionnaire, mais papa, c'était quelqu'un qui était très timide, très réservé. Il n'osait pas demander à se faire payer ils avaient une commission quand ils rapportaient des colis, par exemple des pneus, des colis chez des clients. Et donc tout ça s'est accumulé et s'est conduit avec une entreprise pas trop loin où on habitait, concurrente, et ça l'a emmené à la faillite. Et malheureusement aussi, papa a été, ça me fait mal de dire ça, mais bon, pas que je me voile la face, était alcoolique, dû au suicide de sa maman. Il a perdu sa maman qui s'est pendue quand il avait 19 ans.
Oui, tout ça
donc,
est extrêmement violent.
Ça, c'est un traumatisme.
Oui,
j'étais la seule sur les 5 enfants à pouvoir y en parler. Et papa, j'ai pu lui dire aussi que, même si je ne sais pas si ça a une importance pour votre analyse, je sais que je lui ai dit, peut-être la seule fois de ma vie, parce que dans le temps on était quand même pas comme maintenant, j'ai dit à papa que je l'aimais sur son lit d'hôpital. Et puis mais on était très très proches l'un de l'autre sans pour autant avoir besoin de se parler, quoi. Et moi, j'ai toujours pensé, donc à la suite de ça, papa a repris son ancien métier de maçon. Donc là, effectivement, il a réussi, il était salarié, quoi. Et j'ai aidé à ma maman, vu que je suis l'aînée, à récupérer de l'argent auprès d'une grande société nationale. Et là, maman avait une grosse machine une grosse machine à calculer. Et j'ai aidé à ma mère à comptabiliser, à trier tous ces documents pour que mes parents puissent récupérer une belle somme d'argent. Donc, je pense que peut-être que ce métier d'être comptable, est-ce qu'il est survenu dans l'année de mes 12-13 ans, quoi.
Ben, il y a quelque chose, peut-être, de ce qu'on appelle la fidélité inconsciente.
C'est-à-dire ?
Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que quand, là je ne parle pas forcément que de vous, mais globalement,
oui,
quand on a un parent ou des parents qui ont fait faillite, qui n'ont pas réussi, on peut avoir une partie de soi qui s'interdit de réussir. Comme si une partie de soi se disait, ils n'ont pas eu le bonheur qu'ils méritaient sur le plan professionnel. Je ne peux pas être mieux qu'eux, je ne peux pas gagner mieux que papa. C'est quelque chose qui est très inconscient, mais qui peut nous bloquer. Alors que c'est irrationnel, parce que la majorité des parents normaux veulent le meilleur pour leur enfant. Mais on peut quelquefois se bloquer soi-même en s'interdisant de réussir mieux que papa ou que maman. Ou alors on peut aussi, par fidélité inconsciente, faire quelque chose qu'on n'aime pas forcément, mais parce que, ben là ça peut ressembler à ça dans votre histoire, parce que ça a aidé maman quand je l'ai fait, parce que maman faisait ça aussi. Et parce que ce que votre rêve c'était de faire ce que faisait papa, de ce que j'entends. Ça aurait été de conduire, oui, conduire un véhicule de
oui,
de transport.
Oui, oui, j'ai même mon cousin Germain qui est que de mon âge, donc c'est c'est le neveu direct à papa, parce que mon papa avec un seul frère. Et combien de fois il m'a encouragé. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai failli, hein, j'avais fait les démarches, et si vous voulez, pour bien comprendre, c'était l'an passé, et il fallait que ça soit, c'était très intense, et ça commençait à 8h ou 8h30 le lundi matin, et même le formateur m'a presque découragée en disant c'est un très très lourd travail, et j'aurais une heure de route, ça sera à 20 km de chez moi, d'accord, mais c'est une heure de route matin et soir pendant 3 mois.
Cette information, pourquoi?
Pour être autocariste, pour passer le permis.
Ça vous travaille encore cette histoire? Donc, voilà,
c'était l'an dernier, mais si vous voulez, maintenant j'ai 61 ans, sachant que ce qui me dérange, enfin ce qui me, c'est par rapport à la fatigue, est-ce que je tiendrai, sachant que c'est à une heure de route de chez moi cette formation. Donc autant le soir, et puis c'est pas 8 jours, c'est 3 mois quoi.
Oui, mais vous voyez, finalement hier, quand on en arrivait à la conclusion que travailler dans les mairies c'est pas votre truc, on n'est peut-être pas très loin de la vérité. Au lieu de chercher une histoire d'échec ou de jalousie ou de choses comme ça, c'est peut-être juste que c'est pas assez... Intrinsèquement, fondamentalement, c'est pas ça que vous avez envie de faire.
Oui, peut-être, mais je sais ce qui est un petit peu dommage. Après, bon, c'est comme ça, c'est que c'est pas proche de chez moi, cette formation. C'est ça qui m'ennuie, quoi.
Après, c'est à vous de peser le pour et le contre. Hein. Ça dépend de vos envies, de votre motivation. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? De réaliser ce que vous souhaitez depuis toujours, quitte à faire un gros effort et un gros sacrifice pendant 3 mois, ou de passer à côté de vos rêves?
Après, me connaissant, bon, c'est vrai que j'avais 43 ans, maintenant j'en ai presque 61. Quand j'ai passé mon bac pro, c'était quand même intense, c'était des cours pour synthétiser ce que les lycéens apprennent en 2 ans à l'école, sans les stages, je pense pas. Moi, je l'ai appris en 1 an. Et là, faut repasser le code. Alors, le code, moi, j'ai passé mon code voiture, donc, en 79. Il y a quand même beaucoup de choses à réapprendre, même les choses techniques. Et je veux dire quelque chose qui... C'est pas de la jalousie, c'est de l'envie, c'est une rage. Enfin, une rage. Je vois beaucoup de femmes qui conduisent les bus, hein, et ça c'est quelque chose où ça passe pas pour moi, parce que je me considère, je me dis c'est moi, je suis capable, mais encore une fois mon cousin m'encourage, il me dit c'est pas difficile à conduire qu'une voiture, donc oui, c'est un rêve de gamine, quoi.
Je crois que le vrai souci dans votre vie, il est là, c'est que vous n'êtes pas là où vous avez envie d'être. Et que c'est peut-être la dernière occasion pour vous de y aller.
D'accord.
Faites-vous confiance un petit peu. Hein. Vous avez des compétences, et je suis sûre que les compétences plus l'envie, ça va vous booster pour y arriver.
D'accord. Et est-ce que pour rebondir par rapport à la suite de mon père, j'ai écrit que j'aurais voulu être comptable, mais quelque part peut-être pour réussir là où mes parents avaient échoué, ou alors avoir une revanche sur la vie, c'est-à-dire contrairement à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, une infidélité inconsciente, hein, si j'ai bien noté, là ça serait complètement le contraire, c'est-à-dire papa, la vie t'a pas fait de cadeau, maintenant quelque part j'aime pas le terme venger, mais c'est réussir où lui il a pas réussi, quoi.
C'est possible, sauf que le résultat c'est pas ça, d'après ce que vous me dites. Vous ne m'appelez pas en me disant j'ai réussi, je suis heureuse dans ce que je fais. Peut-être que la démarche initiale, l'envie, c'était ça, mais le résultat, ça n'est pas ça.
Ben, la comptabilité, à part la directrice qui a fait couler l'association, mais autrement, j'ai quand même, je sais pas, 80-90% minimum réussi là où j'ai travaillé, quoi.
Vous avez les compétences nécessaires, Catherine, alors réalisez votre rêve, vraiment. Tentez au moins de le faire. Vous savez, c'est toujours pareil, quand ce sera trop tard, vous aurez des regrets.
C'est vrai, vous avez raison. Mais si pour plusieurs motifs, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait du travail derrière. Je sais que l'année dernière, dans ma région, on cherchait beaucoup de chauffeurs. Il faut savoir que c'est quand même du temps partiel. C'est tôt le matin et puis, bon, c'est pas un temps complet. Donc, je voudrais vous demander, avec votre permission, si, en attendant, parce que maintenant les formations, ça va être pour le mois de septembre-octobre, par rapport au permis D, si des fois dans vos auditeurs ou auditrices, il y aurait des employeurs, je parle dans le privé, hein, qui rechercheraient une assistante comptable ou administrative, même pour faire les payes, du secteur de Maine-et-Loire, c'est-à-dire Saumur ou Angers, quoi.
Bon, bah écoutez, le message est lancé, Catherine, et je vous promets que si on a des appels pour vous, on vous les transmettra.
Oui, oui.
D'accord.
Donc, pour vous, oui, donc le travail en mairie était pas... En attendant, j'ai quand même un entretien d'embauche mercredi prochain dans... Oui, ça, j'ai oublié de vous le dire hier, dans une mairie et agence postale. Donc, je vais y aller parce que moi, je suis quelqu'un de... Enfin, en recherche active, j'aime pas rester les bras croisés. Et puis, donc, je vais y aller. Et puis après, je vais voir, quoi. Peut-être que je ferai quelques mois, on verra, quoi.
Bon, je vous souhaite bonne chance, Catherine. Et je vous promets que si on a les appels pour vous, on vous les transmet.
D'accord. Je vous remercie beaucoup, Sabine, pour votre écoute. Et bonne émission à vous et bonne soirée.
Merci, au revoir, Catherine.
Au revoir.
Et c'est Marguerite que j'accueille maintenant avec plaisir sur la Libre Antenne. Bonsoir, Marguerite.
Bonsoir, Sabine.
Comment allez-vous ?
Eh bien, je vais plutôt bien. Je vous remercie de m'accueillir encore une fois sur l'antenne.
Avec plaisir. Alors, dites-moi ce qui vous ramène vers nous.
Ben, c'est toujours la même chose, mais bon, j'ai fait un bilan positif depuis le dernier entretien que j'ai eu avec vous.
Alors, et racontez-nous pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute à ce moment-là, en résumé.
Moi, je vais avoir 84 ans.
Oui.
Et nous allons, Marie et moi, rentrer dans notre 64e année de mariage. Donc, mon histoire, elle est vieille, puisque ça concerne ma deuxième fille, qui est née en 1961, et vis-à-vis de laquelle j'ai un grand sentiment de culpabilité, parce que j'ai eu une période de sa petite enfance où je me suis pas chantée, enfin, sur le moment, je ne m'en suis même pas rendue compte, mais avec le recul, je me dis que je n'ai pas été une bonne mère pour elle.
Mmh. Oui, on avait effectivement parlé de tout ça.
Oui, on avait parlé de ça, oui.
Et alors, ça vous a amené à quelle réflexion ?
Alors, la réflexion, je ne vous entends pas très bien.
La réflexion, nous, on vous entend bien.
Oui, j'ai fait tout un... Je suis remontée depuis sa naissance de ma fille, parce qu'elle est née en Algérie, où on était avec mon mari juste avant l'indépendance. Donc, on est resté. Elle avait un an quand on a quitté l'Algérie. Donc, la première année de sa vie, ça a été que du bonheur là-bas, parce que c'était un environnement familier où elle était couvée par une nounou Fatma qui était formidable.
Oui.
Et on avait beaucoup de temps avec elle malgré mon travail. Et seulement quand on est rentré en France, on n'a pas pu être muté dans la région où on devait aller. On s'est retrouvé à Paris, mon mari et moi, et on a été obligés de confier nos deux filles à mes beaux-parents, d'abord, qu'elles ne connaissaient pratiquement pas. Mmh. Et bon, c'était des gens, j'avais été un peu dure avec eux la dernière fois, mais je regrette aussi, parce qu'ils étaient contents de les avoir, mais ils avaient une grosse ferme, ils ne pouvaient pas s'en occuper.
Ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi.
Ils ont obligé de prendre quelqu'un pour s'occuper des filles.
Oui.
Et ensuite, à Paris, on est resté encore un an, donc un an sans les filles, quoi. Qui ont été à la fois tour à tour chez mes beaux-parents, puis chez mes parents. Et quand on les a repris, ma fille aînée, qui avait 3 ans, pensait que j'avais trouvé une autre petite fille et que je ne la reprendrais plus. Mmh. Et elle s'est immergée tout de suite dans la famille. Et la petite qui avait 2 ans, elle a été complètement perturbée parce qu'il y a eu trop de changements dans sa vie de petite fille, quoi.
Oui.
Et moi, je n'ai pas compris ça. Donc, en plus, je suis tombée enceinte presque aussitôt et d'un bébé que malheureusement j'ai perdu à 6 mois de grossesse.
Ça faisait beaucoup pour vous, comment aussi à gérer et à supporter, ouais.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends. Je vous disais, ça fait beaucoup de choses en peu de temps pour vous à supporter.
Oui,
la transition,
oui.
La perte de l'enfant, la naissance,
oui.
la gestion du quotidien. Ça a été quand même une période extrêmement, extrêmement difficile pour vous d'abord, avant qu'elle se le soit pour elle.
Oui. Et donc, moi, après, une fois que j'ai, donc après la perte de ce bébé, j'ai voulu absolument un autre enfant. Bon, j'ai attendu 1 an pour l'avoir, mais je l'ai eu. Donc, il y a une petite sœur qui est arrivée encore, elle n'avait que 4 ans, la deuxième. Et je pense que ce bébé-là que j'ai eu, on parle des bébés pansements, mais honnêtement, ça a dû être un bébé pansement pour moi. Et j'ai peut-être un peu oublié ma petite fille, la deuxième.
Je ne sais pas si vous l'avez oublié, mais il y a simplement...
Non, je ne l'ai pas oublié.
Il a fallu faire un peu de place.
Elle avait sans doute besoin de beaucoup, de plus d'attention. Alors, bon, elle était très, très, très mignonne. Elle était pleine de vie. Et bon, moi, j'avais trop de choses. Bon, je ne sais pas. Je ne m'explique pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. En plus, il y avait des tensions dans mon couple. Parce qu'il y avait tout cette, il fallait refaire un foyer, enfin, reconstituer notre foyer, recommencer une nouvelle vie, et ça n'a pas été facile. Donc après, toutes les années après, bon, la vie s'est passée comme ça, et j'ai eu l'impression que j'avais le même comportement avec elle qu'avec ses 2 sœurs, et elles avaient une gardienne, une nounou, qui était adorable et qui m'a... Je dis souvent qu'elle a été presque une meilleure mère que moi. Et elle me disait des fois, vous êtes plus sévère avec elle qu'avec avec les autres. Et je n'en avais pas conscience.
C'est son impression, en tout cas.
C'est après la conversation que j'ai eue avec vous que je me suis dit, il faut que je remonte dans mon passé pour retrouver les sensations que je n'avais pas.
Et qu'est-ce que vous en avez fait alors de ce travail-là?
Alors, ben, c'est très difficile. Avec ma fille, cette petite fille, que je dis toujours ma petite fille, j'ai essayé plusieurs fois de lui en parler, mais elle me dit toujours, maman, c'est le passé, tu ne peux rien y changer. Alors, je ne sais pas ce qu'elle pense. Mais par contre, je trouve que depuis 1 an, elle a fait un pas vers moi, parce que c'est elle qui est la plus proche géographiquement de moi, de nous. Et elle vient souvent me voir, ou alors elle m'appelle souvent, ou elle m'invite chez elle. Et ça, je trouve que c'est formidable.
Donc ça, c'est différent par rapport à avant. Vous me dites que c'est récent, ce changement de comportement.
Oui.
D'accord.
Oui.
Donc ça, c'est bien, oui.
Oui, c'est bien parce que... et j'en ai parlé avec sa sœur aînée, parce que mes 2 autres filles aînées sont plus loin. Et elles sont très proches, hein, toutes les 3. Et j'en ai parlé, elle m'a dit, mais tu sais, maman, elle est comme ça avec nous aussi. Elle peut être piquante, c'est-à-dire elle a du caractère, elle a de qui tenir. Hein. Mais avec ses sœurs aussi, elle dit, elle peut être piquante. On a l'impression quelquefois qu'elle refuse vraiment d'être heureuse. Je ne sais pas si c'est peut-être faux, ce que je pense. Mais...
Ah, je ne sais pas, je ne la connais pas, je n'ai pas parlé avec elle. Mais en tout cas, c'est comme si quand même elle avait senti, sans que vous arriviez à mettre des mots, puisqu'elle a un peu fermé la porte à chaque fois, mais elle a quand même senti que vous avez fait un pas vers elle aussi, vous aussi.
Oui.
J'ai l'impression.
Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse un pas vers elle aussi. Et moi, je me suis beaucoup adoucie aussi. Et vous y êtes pour quelque chose, parce que le deuxième entretien que j'ai eu avec vous, je n'ai pas arrêté de parler, je m'en suis rendu compte après, et je ne vous ai même pas laissé parler. On me posait des questions. Parce que je suis très bavarde. Et...
C'est pas forcément un problème. Quelquefois, les gens ont besoin aussi de s'exprimer, et en parlant, ils se rendent compte eux-mêmes de certaines choses, vous savez.
Oui, mais ça m'a, je vous assure, le deuxième entretien que j'ai eu avec vous, je suis remontée dans l'histoire de ma vie, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose que tu n'as pas fait ou que tu aurais dû faire.
Bon, maintenant, le passé étant le passé, là je vais rejoindre votre fille, vous avez compris des choses, c'est important, vous avez fait un pas, vous avez arrondi les angles, j'ai l'impression.
Oui.
Dans votre cœur et dans votre esprit, elle a fait un pas vers vous aussi.
Oui.
Donc je pense qu'à un moment donné aussi, il est bien de laisser le passé là où il est et de commencer à vivre le présent.
Je crois. Mais moi, je me suis... Après, il y a eu des petites choses par exemple, qui m'ont fait dire, tiens, voilà, elle te punit pour ça, pour ce que tu...
Bah, je ne sais pas si elle vous punit, vous. Il semblerait, d'après vos autres filles, que ce soit son caractère et qu'elle a peut-être effectivement...
Oui, aussi, mais vous voyez, mes filles ne m'en ont jamais parlé, mes deux autres filles. Mais il y a récemment, ma fille aînée est venue nous voir et on a eu l'occasion d'en parler. Et elle m'a dit, tu sais, elle est comme ça avec nous. Elle peut être adorable et puis après nous envoyer des pics comme ça. Bon, alors ça m'a un petit peu rassurée quand même.
Donc ça veut dire que ça n'est pas contre vous. Après, elle a peut-être des problèmes à régler qu'elle n'a pas encore réglés. Ça, c'est son histoire de vie.
Oui. Elle a eu aussi des problèmes à régler parce qu'elle elle a mis 8 ans pour avoir un enfant et c'était très dur. Mais vous voyez, elle ne m'en a jamais parlé. Elle ne m'a jamais dit tiens, tu vois, j'ai commencé un traitement et sa grossesse, elle a voulu la vivre toute seule. Sa grossesse difficile, quoi. Et après, bon, le petit-fils, on ne l'a jamais eu chez nous. Vous voyez, les autres venaient beaucoup en vacances. Et celui-là, il n'est jamais venu sans ses parents. Alors moi, dans ma tête, je me suis dit, tiens, elle te punit.
Oui, mais là, vous voyez, ce n'est pas le cas. Les choses ont l'air de s'adoucir, là.
Oui.
Donc concentrez-vous plutôt sur ce qui va mieux, sur les choses qui deviennent moins agressives, sur un rapprochement qui peut-être sera de mieux en mieux.
Oui. Mais moi, je fais des progrès aussi. J'essaye de. Bon, quelquefois, je me dis, bon, il faut que. J'ai tendance à parler un peu trop vite, quoi. Et puis après, je me dis, mince, j'aurais pas dû dire ça. Comme je suis très impulsive.
Déjà, le fait de le reconnaître, je trouve ça très bien, vous savez, Marguerite. Ça veut dire que vous avez conscience de vos forces et de vos faiblesses.
Oui, j'en ai conscience. Bon, après, j'ai des gènes qui ne mentent pas, hein, parce que ma mère était comme ça, elle parlait tout le temps, et moi aussi, je parle toujours.
Mais ce que je vous avais déjà dit la dernière fois, et je le répète aujourd'hui, c'est qu'à 84 ans, avoir le courage de se remettre en question, de refaire l'histoire en marche arrière, de comprendre les choses, je trouve ça formidable, vraiment. Je vous tire mon chapeau pour
ça. Vous savez, c'est grâce à votre émission, hein. C'est pas encore pour vous passer de la pommade, hein, mais... Je dis que si je ne vous avais pas entendu, je crois que je ne me serais pas remise en question comme ça. Déjà, je n'aurais jamais trouvé quelqu'un comme vous pour m'écouter. Et puis, ça aurait été bien dommage.
C'est gentil, mais vous savez, souvent, je dis que je ne suis qu'un guide. Moi, je vous montre la porte, et la porte à ouvrir et le chemin qui est derrière. Oui. Si vous ne l'ouvrez pas, après, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la vôtre. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je vous dis, c'est ce que vous en faites. Et là, en l'occurrence, vous en avez fait beaucoup de choses.
Oui, il y a la façon de le dire. Et j'ai écrit, parce que j'écris beaucoup, je lis beaucoup et j'écris beaucoup, et j'ai raconté l'histoire de ma vie pour mes enfants et mes petits-enfants. J'ai fait un livre, hein, c'est une écriture que j'ai fait reproduire. Oui. J'en ai donné un exemplaire à chacune de mes filles. Et un jour dans la conversation, je lui ai parlé de ça, elle m'a dit « je ne l'ai pas lu ». Et ça m'a un peu fait mal au cœur, quoi.
Elle n'est peut-être pas prête. Soyez indulgente aussi. Votre proposition à vous, c'est d'avoir écrit ça, c'est très joli. Elles ont le droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter tout de suite. Ça ne veut pas dire je ne lirai jamais, ça veut dire je ne l'ai pas encore lu.
Oui. Et ce qui m'a aussi confortée dans cette idée, c'est que ma fille aînée, j'en ai parlé la dernière fois qu'elle est venue, et elle m'a dit, mais tu sais, moi je ne l'ai pas lu non plus.
Oui.
Ton récit.
On peut apprécier quelque chose pour plus tard, se dire c'est quelque chose, c'est quelque chose d'important, de puissant, ça parle de ma vie, ça parle de ma famille. Ouais. Et peut-être il y a un moment pour lire ça, il y a un temps pour tout.
Oui, je pense.
Et je pense que ça, leur avoir proposé ça, leur avoir offert cette opportunité-là, c'est quelque chose de très positif. Mais à elles de la saisir le jour où elles sont prêtes à le faire. Vous voyez.
Oui.
C'est pas contre vous. C'est ça que vous, je crois que vous commencez à comprendre que ça n'est pas contre vous tout ça.
Disons que moi, j'ai raconté ma vie depuis que je suis toute petite, parce que j'avais une grand-mère qui nous racontait toujours tout ce qui s'était passé pendant la guerre et tout ce qu'elles avaient vécu. Et moi, j'ai gardé tout ça en mémoire et mes parents ensuite, pareil. Et un jour, je me suis dit, il faut que j'écrive ça parce que après, personne ne saura.
Et oui, ça disparaît après tout ça, vous avez raison.
C'est l'histoire de notre famille de aussi longtemps que je m'en souvienne, quoi.
Je trouve ça très beau de faire ça, mais effectivement, c'est de comprendre qu'elles ne sont pas obligées de le lire tout de suite.
Non, mais je le comprends. Vous voyez, je suis âgée maintenant, mais je comprends certaines choses que je ne comprenais peut-être pas quand j'étais plus jeune.
Parce que vous avez eu ce courage-là de faire un travail sur vous, de vous remettre en question, ce qui n'est quand même pas toujours courant quand on prend de l'âge, mais finalement, quelquefois, on n'a pas envie de ça. On se dit, finalement, c'est comme ça, c'est pas autrement. Souvent, on entend des gens dire ça, vous savez.
Mais moi, je me dis que maintenant, il y a des choses qu'il faut apaiser, on n'a plus de temps à perdre, quoi.
Exactement, c'est pour ça que je vous dis que c'est bien de l'avoir fait, mais que maintenant, le passé, il faut le laisser là où il est.
Oui.
Et profiter de chaque douceur du moment présent.
En plus, on a la chance d'avoir trois filles qui sont gentilles, qui ont de la famille. Nos petits-enfants sont adorables. On va être arrière-grands-parents la semaine prochaine.
Oh, félicitations.
Cette semaine. Donc, c'est que du bonheur.
Petite fille ou petit garçon ?
Petit garçon.
Petit garçon. Ben, on lui souhaite déjà la bienvenue, ce petit bonhomme.
Oui. Ben, le prénom, ils l'ont pas dit.
Oui, c'est souvent, ça se garde pour elle.
C'est le premier, donc on est heureux.
Arrière-grands-parents, vous vous rendez compte, le bonheur ?
Oui, mais je mesure tous les jours le bonheur de notre famille qui est tellement unie, et qui toutes les fêtes qu'on peut faire, toutes les fois qu'on peut être réunis, tous les petits-enfants, les petits-enfants, ils veulent tous être ensemble. Donc,
c'est bon d'entendre ça, Marguerite, vraiment.
Oui, je dis toujours qu'on a beaucoup de chance, mais on a eu des épreuves comme tout le monde.
Alors profitez-en bien du présent maintenant.
Oui, et puis je vous remercierai jamais assez de m'avoir écouté parce que je ne vous les ai pas laissé souvent la parole.
Une fois de plus, ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est ce qu'il en sort. Et là, il en sort du positif, donc j'en suis ravie pour vous.
Merci beaucoup. Je vous embrasse.
Moi aussi, je vous embrasse très fort, Marguerite.
Oui, et puis je vous écouterai tous les week-ends encore.
C'est gentil. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir, Marguerite.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et il est temps pour moi d'accueillir Vincent. Bonsoir à vous, Vincent.
Bonsoir, Sabine.
Soyez le bienvenu.
Merci de m'avoir pris mon appel.
Avec plaisir. Qu'est-ce qui vous amène, Vincent ?
En fait, moi j'ai 42 ans. Je suis divorcée. J'ai deux enfants que j'ai en garde alternée depuis le divorce, depuis 2017.
D'accord.
Et très récemment, ma fille aînée, donc bientôt 14 ans, m'a dit qu'elle voulait aller vivre chez sa mère. Donc, ce qui met un peu ça déséquilibre tout, en fait.
Alors, racontez-moi un peu le contexte. La seconde, à quel âge ?
Mon fils, il a 8 ans.
Ah, c'est un garçon, d'accord. Donc, vous avez une fille de 14 et un garçon de 8.
Oui.
Donc, il y a quand même un écart relativement important entre eux.
Oui, mais ils sont très proches.
Ils sont très proches. Et vous les avez, pour l'instant, une semaine chacun ?
Le mode de garde, il ne s'est pas fait exactement comme ça. C'était une semaine séparée en deux, parce qu'à l'époque... Par rapport au travail de la maman, c'était plus simple, sachant que moi, je ne travaille pas le mercredi, donc ils sont avec moi.
Donc, c'était un arrangement en bonne intelligence.
Oui, ça s'était fait comme ça, entre nous, et validé par le juge aux affaires familiales.
D'accord.
Et c'est un mode de garde qui est parti comme ça depuis 2017.
Depuis le divorce. Quelles sont vos relations avec votre ex-femme ?
C'est compliqué.
C'est quoi compliqué ? Concrètement.
Ça a été compliqué pendant le divorce. Maintenant, ça l'est sur certains aspects financiers. Et puis, On arrive à parler quand même pour les enfants, mais là je sens depuis un an que...
Une tension,
qu'il y avait des choses qui étaient mises en place, qui fonctionnaient bien, à mon sens, qui convenaient aux enfants, et elle change d'idée, et du coup ça déséquilibre pas mal de choses.
Pourquoi avez-vous divorcé à l'époque ?
Donc c'est moi qui ai demandé le divorce.
Ah.
Et j'ai demandé le divorce parce qu'en fait, mon ex-femme est de confession musulmane. Et donc je le savais, hein, j'ai toujours su, etc. Et j'ai tout à fait, pour moi, il n'y avait pas de souci. Mais petit à petit, elle s'est un peu, plus engagée dans sa religion, plus peut-être, à mon sens, plus renfermée. Mmh. Et ça, moi, ça me correspondait plus par rapport à ma vision de la vie des gens. Ça me convenait plus du tout, en fait. Ce communautarisme, c'est pas quelque chose qui me ressemblait.
D'accord.
Et j'ai beaucoup réfléchi avant de tout, avant de demander le divorce.
J'imagine, oui, c'est pas simple.
Parce qu'on avait construit beaucoup de choses, les enfants surtout. Enfin, on avait construit tout ce qu'on s'était dit que l'on ferait quand on était jeune. Pour moi, on avait fait des belles choses. Enfin, on avait fait tout ce qu'on voulait faire, en fait. Et...
Mais avant d'en arriver au divorce, est-ce que vous l'avez mise en garde plusieurs fois en lui disant « Attention, pour moi, c'est une dérive, je ne suis pas d'accord avec tes opinions, tes croyances, tes pratiques. »
Ouais.
Et alors, qu'est-ce qui se passait de son côté ?
Alors, en fait, elle me disait entendre ce que je lui soulignais, ce qui ne me convenait plus. Mais c'était assez bizarre comme sentiment, mais en fait, j'avais l'impression que donc la personne physique devant moi, c'était la même personne, mais au niveau psychologique et autres, c'était la personne que j'ai connue et aimée n'était plus là.
Est-ce que vous me dites que quelqu'un lui aurait retourné le cerveau, quelque chose comme ça ?
On peut dire ça, ouais.
Oui. Donc c'est compliqué de se battre contre ça, hein.
Ah, mais moi, de toute façon, après, pour moi, c'était. Je la connaissais tellement que pour moi, j'ai dû mettre plusieurs mois à comprendre que. Elle était présente physiquement, mais.
Oui, c'était plus elle, quoi.
C'était plus elle. Oui. Donc, c'était quelque part faire un deuil de ça, mais en plus de ça, en même temps, faire face à. La colère de cette nouvelle personne qui ne voulait pas divorcer.
J'allais vous demander comment elle a réagi quand vous avez acté ça.
Ah, c'était super violent pour moi, en fait. Parce que y a eu déjà un temps où elle m'a proposé d'aller voir... c'était un thérapeute de couple. Mmh. J'ai accepté. Mais quand elle a compris que ma décision était vraiment prise, elle a arrêté les séances.
C'est-à-dire que là, je ne vois pas ce qu'un thérapeute peut faire quand il s'agit de croyances et de religion et de pratiques. On n'est pas en train de parler
de
problème
de couple. Surtout par rapport, elle voulait en fait, elle voulait, si vous voulez, la voir pour essayer que je n'aille pas au bout de ma demande de divorce.
Oui.
Bon, voilà, c'est bon. Moi, j'ai suivi ça, mais moi, ma décision était prise. Hein. De toute façon, j'ai mis un an à la prendre. Mais... Donc après, voilà, ça a été très compliqué pendant 4 mois. Parce que pendant ces 4 mois, en fait, on a vécu sous le même toit.
Vous m'avez parlé de colère. Elle était très en colère contre vous.
Oui, mais c'est une colère... Je dirais que c'était un peu une violence psychologique. C'était une colère froide. C'était une colère... c'était destructeur, en fait. tout ce que je faisais n'était pas bien. Enfin, même les enfants, elles leur parlaient de tout, alors que c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Limite, aller monter contre moi.
J'allais vous demander justement comment elle s'est comportée avec les enfants, parce que ce genre de dérive, ça peut aller très loin quand on a des enfants.
Ouais, mais à l'époque, voilà, elle a tout fait pour dire « Papa est méchant, c'est lui qui est parti ». Enfin, voilà. Elle a tout fait pour, oui, les monter contre moi. Ouais. Et notamment ma fille qui était plus grande. Mon fils était vraiment très petit hein, à l'époque. Il avait 2 ans, 2, 3 ans. Donc, voilà, il y avait ça. Et donc, moi, pendant ces 4 mois, je suis resté parce qu'en fait, il n'était pas question que je parte sans avoir un toit pour accueillir mes enfants.
Et vous avez quand même réussi à avoir une garde partagée malgré sa colère. Elle aurait pu essayer de se venger, de vous empêcher d'avoir cette garde partagée.
Alors, bah finalement, donc, au bout des 4 mois, donc, j'ai réussi à avoir un logement suffisamment grand pour dire, bah voilà, je pars et on commence la garde alternée. Ça a été plus simple, ça, au départ, que tout ce qui était matériel, aspect financier et autres.
Ah bon ? C'est curieux.
Ouais. Donc ça, voilà, au départ, ça est... Par rapport aux enfants, je dirais que ça s'est fait... Enfin, ça s'est fait. Voilà. La garde alternée a commencé comme ça. Après, bon, bah, le divorce, il a duré et duré, hein, puisqu'elle a... Il a fait quand même durer les choses. Mais voilà, la garde alternée, elle était là. Je ne dis pas que les enfants, ça a été toujours simple pour eux. Hein, mais on a recréé rapidement un petit cocon quand ils étaient chez moi. Où la parole était libre. On parlait beaucoup. Et puis... voilà, je leur ai réexpliqué ce qui s'était un peu passé, comment ça allait se passer.
C'est bien que vous ayez pu faire ça.
Qu'en effet, ils allaient avoir 2 maisons, etc. Ouais. Et puis, c'est vrai que moi, j'avais encore du mal hein, aussi à gérer tout ça. Donc, je leur ai dit, moi, je vais pas forcément chercher à savoir ce qui se passe chez maman, sauf s'il y a des soucis. Enfin, je voulais pas rentrer dans ton... À chaque fois qu'il rentre chez moi, alors qu'est-ce que vous avez fait chez maman? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pas très sain, effectivement, oui. Mais cela voilà, dit, est-ce que vous avez appris qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie? Ou pas?
Non, je pense pas.
Vous pensez pas qu'il y a quelqu'un? Et vous, de votre côté non plus?
Non.
Non, d'accord. Donc si je comprends bien, ça s'est relativement bien passé jusqu'à il y a 1 an. Et depuis 1 an, il y a des tensions qui se sont apparues?
Il y a des tensions qui sont apparues... en fait, les enfants, on les met dans une école privée. C'était une décision qu'on avait prise quand on était mariés. Mmh. Et les enfants sont très bien là-bas. Mais maintenant, elle a décidé que elle voulait plus payer parce que de toute façon, ça lui était égal que les enfants restent dans cette école ou pas.
Oui, alors qu'elle n'a aucun droit de prendre une décision sans vous dans ces moments-là. Vincent, ce que je vous propose, c'est qu'on continue à discuter, bien sûr, mais juste après les informations.
Ok.
D'accord, je vous laisse patienter, je vous récupère dans quelques instants. Merci à vous. Et à 7h, bienvenue si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de cette libre antenne sur Europe 1. Nous poursuivons ensemble notre cheminement au cours de cette nuit de dimanche à lundi. Nous sommes ensemble donc pendant une petite heure encore. Et si vous avez envie de parler de vous, de votre vie, un seul numéro de téléphone, le 3921. Cindy et Nicolas sont prêts, ils attendent vos appels. Et vous guideront jusqu'à moi, 3921 donc pour le téléphone et pour réagir par SMS, 73921, le mot nuit et votre message.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et nous reprenons notre conversation, Vincent, vous êtes là ?
Je suis là, Sabine.
Vous me racontiez donc avant les informations un divorce difficile avec une femme qui devenait de plus en plus radicale dans sa religion.
C'est ça.
Un début de mise en place de garde alternée avec des enfants qui finalement bon an, mal an, vous avez trouvé un équilibre finalement tous les quatre ?
Oui.
Et puis depuis un an, il semblerait que cet équilibre, elle fasse tout pour le casser, pour que les choses se passent.
En plus, en fait, depuis un an, bon, alors il faut dire qu'on a, comme tout le monde, il y a eu la période du confinement qu'on a passé tous les trois ensemble.
Pourquoi tous les trois ?
Mes enfants et moi.
Ah oui, pardon, je pensais que vous les aviez repassés avec elle, donc j'étais un peu surprise. Il manque un enfant. Non, c'est elle qui n'est pas dans le...
Oui. Non, mais voilà, on est restés ensemble, c'est ce qu'ils voulaient. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, il y a un an, j'ai changé de logement pour prendre un appartement plus grand, pour que chacun ait leur chambre et qu'on ait un chez nous un peu plus confortable, moins quelque chose que j'avais pris dans l'urgence, qui nous a aidé, mais voilà. Mm-hmm. Et c'est vrai que du coup, depuis un an, on aurait pu être un peu plus stable et tranquille. C'est pas le cas. Et donc, pour venir à l'objet de mon appel, là, c'est que ma fille, elle veut vivre chez sa mère.
Oui.
Sans tenir compte de la garde alternée.
D'un coup, comme ça, elle vous dit ça?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle a comme argument?
Alors, elle avait parlé avec sa mère avant. Hein. C'était bien préparé, j'ai trouvé.
Ah.
Donc, elle m'a dit ça pendant les vacances, là, les dernières vacances scolaires.
Mmh.
Voilà, elle me dit, ouais, je veux aller vivre chez maman. Moi, j'en ai marre de changer de maison. Là-bas, il y a plus de place. J'ai ma chambre. Je suis plus à l'aise. Je veux plus changer mes affaires d'une maison à une. C'était son argument premier.
Alors qu'elle le fait sans problème depuis plus de depuis 2017, quoi.
Oui. Oui, et puis même, toute l'année, là, cette année, elle venait manger chez... Je suis pas loin de son école, donc elle m'avait demandé de venir manger chez moi le midi. Donc elle venait à la rentrée, elle mangeait à la maison le midi.
Oui, enfin, c'était souple en plus comme organisation, il n'y avait pas vraiment de règles très strictes.
Moi, je me suis toujours adaptée, hein. C'est-à-dire que si elle voulait plus aller à la cantine... je lui dis ok, l'année dernière j'avais dit non parce que niveau maturité c'était pas encore, moi je le sentais pas qu'elle parte de l'école, rentrer à la maison, manger. Bon là cette année je l'ai laissé faire, ça s'est très bien passé, elle a toujours été correcte, elle me prévenait quand elle arrivait, quand elle repartait, enfin voilà, tout roulait bien. Hein. Et puis pareil, elle a décidé maintenant de finir l'année, de manger de nouveau à la cantine. Bon. Et puis cette histoire, voilà, qu'elle veut vivre là-bas parce que voilà, elle veut plus changer de maison. J'essaie de comprendre quand même pourquoi, de lui expliquer. Avec son frère, que du coup son frère va être tout seul chez moi, que ça va changer beaucoup de choses.
Oui, bien sûr.
Et puis, après, elle m'a fait beaucoup de reproches.
Ah. Téléguidée d'après vous ?
C'était le discours d'une jeune ado. Je pense qu'elle en avait aussi peut-être sur le cœur, mais il y avait peut-être des choses téléguidées, ouais. C'est-à-dire que bon, elle m'a reproché d'être toujours sur son dos pour les devoirs, les cours. Et c'est vrai, je suis.
Vous êtes un papa attentif, en tout cas, c'est ce que j'entends, moi.
Oui, j'essaie de l'être, mais en fait, je le suis parce que. Et ça, c'est eux qui me le disaient, hein, donc voilà. Et je sais que quand ils sont après chez leur maman, au niveau du. Des devoirs, c'est pas forcément la même chose. Donc moi, en fait, je me suis toujours efforcé de quelque part de pas de rattraper, mais de faire le maximum des choses quand ils sont chez moi, avec le maximum de suivi pour que quand ils partent, ils savent ce qu'ils ont à faire, quoi. Voilà. Et bah oui, donc elle m'a reproché d'être trop sur son dos, de toujours regarder les devoirs qu'elle avait à faire. Mais bon, en même temps, moi je lui ai dit, si tu me montrais que tu étais autonome, je te laisserais tranquille, quoi.
Et puis c'est un peu typique d'un discours d'une ado de 14 ans, quoi. C'est un peu le...
Voilà. Ça,
c'est
oui,
les coups de griffe classiques, quoi.
Voilà. Mmh. Après, les autres arguments, là, c'était un peu plus téléguidé, je pense, comme vous dites. J'aime bien ce... voilà, elle m'a dit, quand tu as choisi de partir, tu ne nous as pas demandé où on voulait habiter.
Ah oui, effectivement, c'est pas un discours de
jeune.
C'est... Oui.
Voilà, et puis bah, elle m'a reproché que voilà, l'appartement que j'ai, je suis en travaux dedans, ça prend du temps, donc voilà. Mmh. Bon, des petites choses comme ça. Donc, j'étais bien sonné quand elle m'a raconté ça. Et...
Comment vous avez réagi donc, sur le moment ?
Ah, sur le coup, j'arrivais pas à parler. Parce que, tout ce pourquoi je me suis battue pendant le divorce, bah, ça commençait un peu, je voyais que ça commençait à s'écrouler finalement, parce que moi, je voulais les avoir souvent comme le mode de garde qu'on avait, pas un week-end sur deux, comme ça, quoi. Sur le coup, voilà, j'ai pas trop parlé, j'étais sonné, hein. Le premier jour, j'étais sonné. Le lendemain, j'ai réussi à lui parler. Heureusement, j'avais bien... Les choses s'étaient bien rangées dans mon esprit, donc ça va. Je ne me suis pas emporté, j'ai pas dit des...
C'est bien, ça,
ouais. Des choses que... Voilà, j'ai essayé de ne pas la braquer, mais elle était par contre complètement fermée, quoi. C'était imperméable, ce que je lui disais. J'avais l'impression que je parlais à un mur. Donc, sachant voilà, qu'elle a 14 ans, je lui dis, bah, écoute, je ne peux pas me... dans les faits, en effet, je ne peux pas m'y opposer. Si tu veux aller chez ta maman...
Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a un jugement qui a été porté, quand même. Elle ne peut pas se substituer au juge des affaires familiales.
Mais elle a l'âge de décider. C'est-à-dire que si on repart vers le juge va chercher à l'entendre et il va prendre en compte son point de vue.
Oui, mais c'est quand même une bonne chose. Même si ça doit aboutir finalement au même résultat, il faut que ce soit acté, tout ça. Il faut qu'elle comprenne ce qu'il voulait oui, mais il faut qu'elle comprenne que ses actes ont une conséquence. On ne peut pas simplement dire, voilà, je m'en vais, c'est comme ça. Ce n'est pas elle qui décide.
Alors ça, je lui ai dit ce que vous m'avez dit. Hein. Je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, tu sais, il y a le juge qui a décidé avec nous d'un mode de garde. On ne peut pas le changer comme ça.
Mmh.
Moi, quand tu es chez maman, alors que tu devrais être chez moi, je suis responsable de toi.
Exactement.
Ça veut dire que tout ça, il faut que ça soit acté, modifié. On ne peut pas faire les choses comme ça. Et du coup, je lui avais dit aussi, je lui ai dit, laisse-moi le temps jusqu'à la rentrée pour comprendre, accepter, pour préparer ton frère, me préparer. Enfin, voilà, je lui ai demandé du temps et pour essayer de faire les choses dans l'ordre. Et...
Mmh.
Bref. Et donc... la première semaine, elle est venue, comme habituellement, mais c'est tout.
Ah oui, donc elle n'a rien écouté de ce que vous avez dit.
Non.
Vous en avez parlé avec votre ex-femme ?
Ouais, mais comment vous dire que c'est même pas la peine, en fait.
Ah.
Oui, j'en ai parlé, mais mon ex-femme, elle l'a... Elle est derrière elle ou devant elle, je ne sais pas. Hein. Enfin, voilà. En tout cas, dimanche dernier, c'est elle. C'est mon ex-femme qui m'a appelé en me disant « Elle ne viendra pas chez toi cette semaine pour une excuse complètement bidon. »
Mais attention, là, vous avez raison, c'est que vous êtes juridiquement responsable d'elle. Quand
je
elle...
sais.
Parce qu'il y a le côté moral, mais il y a le côté légal. Et là, c'est du grand n'importe quoi. Hein.
Mais complètement. Et donc, là, ce week-end, Elle est venue puisque c'était le week-end où j'ai les enfants. Mais c'est pareil, quoi. Elle est venue sans respecter l'heure. Elle est repartie sans respecter l'heure. Enfin, c'était du n'importe quoi, en fait.
Et son petit frère, donc, comment il prend tout ça?
Bah, pas bien. Il est triste, déjà. Et puis... Après, je sais que il veut pas rentrer dans tout ça pour l'instant, lui, parce qu'il est super sensible, tout, et là, il est bien dans sa tête, et il a pas envie de rentrer dans ça. Je pense qu'il était très bien quand on était dans notre fonctionnement de garde alternée. Il a besoin que les choses soient cadrées, il a besoin de son cadre, en fait, et je sais que ça le chamboule. C'est certain.
Vous n'avez pas peur que l'étape suivante, ça sera de le récupérer, lui?
Ah bah si, bah oui.
Eh oui, ça ressemble à ça. Hein.
Bah ouais, mais moi je ne sais plus quoi faire. En fait, là je vous appelle parce que franchement, bon, ça il y a ça, hein, mais ça fait des années là que je passe par plein de choses compliquées. Ça ne s'arrête pas et tous les efforts que je fais pour que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas et je ne sais plus. Déjà, j'ai pas la force de repartir dans quoi que ce soit là. Je me sens impuissant et je vois ma fille qui m'échappe, clairement.
Quand vous dites pas la force de repartir dans quoi que ce soit, vous parlez d'une autre histoire ou de problèmes juridiques?
Non, mais non, oui, dans des démarches et tout.
Dans les démarches, mais oui, mais en même temps, là, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Elle vous échappe, mais elle vous échappe hors règlement. Et en plus, il me semble quand même qu'il y a un facteur important, qui est cette... je ne sais pas quel terme employer pour être prudente, mais cette radicalisation de votre, de votre ex-femme. C'est un argument quand même que les juges devraient avoir, me semble-t-il.
Oui, mais si je pars dans des démarches...
Ah oui, mais ce n'est pas anodin. C'est à la base de tout, cette histoire-là, finalement.
Oui, c'est la base de tout.
C'est la base de votre rupture, c'est la base de votre...
Mais les conséquences, je peux tout perdre, en fait.
Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment?
Oui, mais ça se trouve, je vais perdre mon fils aussi.
Et vous croyez que si vous ne faites rien, vous ne le perdrez pas? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne tactique, hein, avec elle, de la laisser faire. Je parle de votre ex-femme, de la laisser mener comme ça les enfants par le bout du nez et les manipuler sans réagir. Je ne suis pas sûre que ça vous amènera au résultat escompté. Hein. Est-ce qu'elle est elle-même entourée ou manipulée par la famille, par des gens de... Je ne sais pas.
Qui?
Votre ex-femme.
J'en ai aucune idée.
Vous ne savez pas si elle est elle-même entourée de gens qui se...
Elle s'entoure de personnes...
radicales, quoi, c'est ça que je voulais dire.
Oui.
Oui,
oui, de toute façon, elle s'est renfermée complètement. Hein. De toute façon, moi, elle m'a dit... À l'époque, si t'es plus musulman, tu fais plus partie de ma vie, quoi. Enfin, voilà, c'est pour vous montrer un peu le...
Mais les enfants sont élevés comment, alors, finalement, de ce côté-là?
Eh ben, il y a aussi ça. C'est-à-dire que, du coup, moi, chez moi, ils sont élevés, il n'y a pas de... Je leur inculque pas de religion.
Mm-hmm.
Mais chez leur mère, oui.
Et vous les sentez, en tout cas la grande, vous la sentez comment par rapport à ça?
Elle va de plus en plus vers...
Oui, elle adhère.
Elle a fait le ramadan, par exemple, cette année.
Mmh. Et oui. C'est très délicat, ces sujets-là. Vraiment, c'est très, très compliqué. Et puis, du côté des grands-parents, est-ce qu'il y a un lien entre vos enfants et leurs grands-parents maternels?
Ils les voient, oui.
Et ce sont des gens qui sont comment, eux? Plus ouverts que votre ex-femme ou pas?
Moi, je les trouvais plus ouverts.
Oui.
Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis avec eux.
Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à leur parler de ce qui se passe, de vos inquiétudes?
Ah non, mais moi, ils m'ont tous tourné le dos du jour où je suis partie. Hein. J'existe plus. Hein.
Oui, donc là, de ce côté-là, vous ne pouvez rien attendre non plus.
Non. Non, non, et puis de toute façon, ils prennent... ils sont tous derrière elle. Ça, c'est certain.
Hein. Oui. Alors, je comprends votre épuisement, votre déception et votre peur. Mais vous voyez, il y a Marie qui envoie un message et qui dit « Ça n'est pas bon de laisser le changement s'installer sans faire une main courante, ni sans faire respecter fermement les horaires et les jours de garde. » Et je pense qu'elle a raison. Parce que laisser ça s'installer comme ça, c'est la porte ouverte à plein de problèmes encore plus grands derrière.
Oui.
Ça veut dire que c'est votre ex-femme qui fait la loi contre ce qui a
j'arrive
été...
J'arrive plus à mettre mes idées en place, en fait, j'arrive plus.
Vous êtes fatigué, oui, moralement, oui, ça s'entend, ça se sent. Il y a de quoi, parce que vous êtes beaucoup battu pour retrouver un équilibre et elle est en train de tout détruire.
Et puis j'ai plus de... Financièrement, j'ai peur de pas y arriver aussi. C'est compliqué. Hein. J'arrive pas à me stabiliser, en fait.
J'imagine qu'au moment du divorce, vous aviez un avocat.
Oui.
Est-ce que ça se passait, c'était un homme ou une femme?
Moi, c'était une femme.
Est-ce que ça se passait bien avec elle? Est-ce que vous avez
Très bien.
Est-ce que vous n'auriez pas envie de la rappeler pour faire un point? Qu'elle vous conseille, qu'elle vous aide, qu'elle vous dirige un
peu? Je l'ai fait, mais elle me propose un rendez-vous, donc ça veut dire qu'il faut que je repelle. J'essaie déjà de... En fait, en ce moment, j'ai pas le temps de respirer, que tout s'enchaîne. Et j'ai pas le temps de faire surface non plus financièrement. Quand je vous disais tout à l'heure par rapport à l'école, je dois prendre l'école à ma charge parce qu'elle a décidé de pas la payer. C'est énorme pour moi. J'ai eu un souci récemment avec mon chien guide. J'ai fait une cagnotte en ligne parce que j'arrive pas à payer tout ça. Donc là, si
Pourquoi
je me
repars, votre chien guide, pour quelle raison?
Il a avalé un bouchon de liège.
Non, mais pourquoi un chien? Vous avez besoin d'un chien guide?
Je suis malvoyant.
Ah d'accord, vous ne l'avez pas dit.
Non.
D'accord.
Et elle aussi d'ailleurs. Mais donc voilà, j'ai eu des 3 mois là compliqués pour gérer ça. Et financièrement, je n'y arrive pas. Donc repartir dans, je sais combien ça m'a, combien. Alors je sais que voilà, on peut se dire c'est les enfants, l'argent, nanana. Déjà j'ai perdu beaucoup d'argent dans le divorce pour les enfants. Et là repartir dans des frais, j'ai pas le droit à l'aide juridictionnelle.
Pourquoi?
Parce que je gagne trop pour l'avoir. Je suis dans le. J'ai un salaire tous les mois, donc voilà.
Mais dites-moi, vous avez dit à votre fille que potentiellement l'école allait s'arrêter pour elle parce que vous ne pouvez pas payer à cause de sa mère. Ce serait intéressant qu'elle sache ça, non?
Oui, je l'ai dit, oui.
Alors, comment elle réagit?
Elle dit rien, parce que je pense que...
Je suis pas sûre qu'elle ait très envie à 14 ans de quitter ses copines et ses habitudes scolaires non plus. Vous ne pouvez pas éponger non plus tous les problèmes et toutes les galères que sa mère met sur votre chemin. Si vous ne pouvez pas payer l'école, ben vous arrêtez de payer l'école et elle en change. C'est aussi la responsabilité de sa mère.
Ouais, mais il y a aussi le petit derrière. Enfin, ouais, je pourrais payer pour un, je sais pas.
D'ailleurs, est-ce que vous avez prévenu l'école de ce qui se passe? Est-ce qu'ils savent qu'elle n'est pas chez vous quand elle devrait y être, par exemple?
Ah non, ça non.
Pourquoi?
Bah, c'est trop récent, j'arrive pas en fait. Je voulais voir comment ça se passait, comment ça se passait, est-ce qu'elle venait ou pas. Bon, la semaine dernière, elle n'est pas venue. Non, j'ai pas averti l'école.
Je pense que ce serait bien de le faire quand même. De faire savoir qu'il y a des problèmes qui sont en train d'arriver.
Je crois que j'arrive pas à le dire parce que pour moi, ça veut dire qu'il faut officialiser les choses. Et j'y arrive pas. Entamer des démarches, je sais même pas par où commencer. Et puis ça veut dire aussi officialiser les choses. Et ça veut dire aussi que ça va figer le fait qu'elle vit chez sa mère.
Et oui, mais elle vit chez sa mère. Je comprends que vous ayez du mal à le dire et à l'entendre, mais de fait, c'est ce qui se passe maintenant. Puisque même quand vous lui avez demandé un peu de temps pour mettre les choses en place proprement, elle a fait comme si vous n'aviez rien dit. Ça a tenu 5 jours et puis voilà, elle a lâché l'affaire. Donc malheureusement, il y a des faits qui sont là, qui sont tels qu'ils sont. Et ça n'est pas en n'en parlant pas que ça va changer. Peut-être pourriez-vous vous faire aider, ne serait-ce que par votre médecin généraliste, avec un petit peu d'antidépresseur ou un petit peu de médicaments pour vous aider à passer ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu en train de sombrer, là. De perdre
ouais,
pied.
Je le sens. Mais oui, parce qu'en fait, je suis pris de partout. J'ai un travail qui me demande de l'énergie. Enfin, comme tout le monde, hein, mais... C'est pas forcément simple aussi. Rien n'est simple nulle part. Mais voilà, non, mais j'ai vraiment peur des conséquences. Et puis voilà, ça veut dire si je repars dans des démarches au tribunal, bah, l'autre côté, après, ça veut dire que je vais avoir une pension à donner. Et ça va figer cette histoire de... Ouais,
alors, je ne veux pas vous faire de peine, mais d'après ce que j'entends, elle ne va pas s'arrêter là, votre ex-femme. Elle risque non seulement de vouloir évidemment récupérer le petit aussi, et bien évidemment de vous réclamer une pension derrière. Donc ce n'est pas parce que vous n'allez pas entamer de procédure qu'elle ne le fera pas. J'ai peur que ça soit reculé pour mieux sauter. Hein. Je sais que c'est très compliqué, mais il me semble qu'il faut vraiment verrouiller. Et si vous pouviez vraiment avoir au moins un rendez-vous avec votre avocate, ou avec une avocate, même il y a des avocats qui sont moins chers en ligne, mais si vous avez quelqu'un qui vous connaît, qui connaît le dossier, ça me paraît important quand même de refaire un point aujourd'hui avec elle.
Ouais, non, mais elle est bien. Ouais.
Alors en plus, si elle est bien, elle peut de très bons conseils, et je crois que vous avez besoin d'être bien entouré en ce moment. Mais oui, j'entends que c'est difficile pour vous, et je le comprends. Mais si vous lâchez l'affaire maintenant, je crains qu'elle s'engouffre dans la faille, votre ex-femme. Quand, si elle comprend qu'elle prend le pouvoir, ça va être sans fin.
Mais du coup, le fait de faire ça, ça ne peut pas empirer les choses.
Qu'est-ce qui pourrait être pire que votre fille ne vienne déjà plus chez vous ?
Ah bah le pire, c'est que j'ai plus les deux, hein, de toute façon. Hein.
Mais malheureusement, je vous dis, je crains que ce soit déjà en cours, au moins dans son esprit à elle, à votre ex. Parce que partie comme c'est de ce que j'entends, je ne la vois pas subitement dire « Non, mais finalement, on va rester comme ça, on va trouver un compromis, on va s'arranger. » Elle vous a prouvé qu'elle n'a pas de parole pour les arrangements. Elle vous a prouvé qu'elle est capable de manipuler les enfants.
Oui. Mais du coup, sachant que ma fille, elle a l'âge de décider, qu'est-ce qu'elle va faire l'avocate, en fait ?
Acter des choses de manière légale, c'est déjà très important. Et que votre fille comprenne aussi que dans la vie, on ne fait pas les choses n'importe comment. C'est aussi un apprentissage pour elle. On ne décide pas de changer la loi comme ça, on ne décide pas de changer de domicile sans prévenir et sans acter les choses. Sa décision a des conséquences, il faut qu'elle le sache aussi.
Ouais, mais tout ça, je lui ai dit.
Et puis financièrement, c'est la même chose. Si elle est chez maman, y a beaucoup de choses qui peuvent changer, quoi.
Et admettons ça, ouais. Et en attendant, parce qu'on sait très bien que c'est très long tout ça, comment j'agis avec elle ?
Quand elle revient les week-ends, comment ça se passe ?
Ah bah je vous dis, là c'était le premier week-end où elle est revenue. Depuis, je ne l'avais pas vue depuis 10 jours. Mmh. Alors c'est pareil, même ça me perturbe en fait. Je pense qu'elle peut être capable de ne pas me donner de nouvelles pendant 10 jours.
Ça a été le cas là pendant ces 10 jours-là ? Elle n'a jamais passé un coup de téléphone ?
Plus ou moins. Hein. Moi je lui fais des petits signes. Mais bon, pas trop parce que... Je trouve que ça doit aussi aller dans les deux sens.
Ça doit venir d'elle, oui. En même temps, ça ne doit pas être facile pour elle de faire ça quand elle est chez sa mère, qui peut-être est aussi très intrusive avec elle. Très présente, trop présente. Et comment est-ce qu'elle est avec son petit frère quand elle revient comme ça ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il lui a manqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se renoue entre eux ?
Moi, je la trouve quand même. Je la trouve quand même plus isolée.
Distante?
Oui.
Ouais.
Ce week-end, l'impression que j'ai eue, j'appréhendais hein, ce week-end.
J'imagine.
Vraiment,
ouais,
parce
ouais.
que. Bon, quand elle est venue, quand elle a respecté la première semaine de garde alternée, il y avait l'école, il y avait tout ça, donc ça se voit moins. Et puis la semaine est passée très vite, donc voilà. Mais là, ce week-end, elle était là, mais si elle avait pu être ailleurs,
oui.
ça aurait été bien.
Et malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire qu'elle vienne de moins en moins jusqu'à plus venir du tout.
Bah, je sais.
Et oui. Et c'est
je
pour
sais
ça
même
que
pas je... si elle va revenir là, parce que, enfin, je sais même pas dans, oui, dans 15 jours, parce que je lui ai quand même dit tout à l'heure, je lui ai quand même dit, voilà, tu peux pas venir déjà le week-end sans respecter des heures d'arrivée, de départ. Moi, j'ai l'impression que ce week-end, je t'ai attendu tout le week-end. Tu dois quand même respecter ça. Et bon, elle l'a mal pris.
Alors en même temps, en plus de ça, c'est l'âge. Hein. C'est vrai que c'est l'âge où ça commence à être compliqué,
oui, voilà.
les rapports avec surtout avec les jeunes filles à 14 ans. Donc ça n'arrange rien la situation. Mais je pense quand même que par rapport à quelqu'un comme votre ex-femme, il faut savoir dire stop et savoir dire non. Il y a des gens qu'il faut arrêter dans leur délire aussi, vous savez. Sinon, c'est sans limite. Sinon,
ouais,
c'est quoi l'avenir? Elle récupère le petit dans quelques mois, et puis dans un an, elle les radicalise et vous ne les voyez plus du tout?
Ouais, mais à chaque fois que je vais contre elle, elle arrive toujours à m'atteindre d'une autre manière. C'est-à-dire que, par exemple, cette année, j'ai été beaucoup à lui demander de m'aider financièrement comme elle le faisait avant, et elle avait décidé de ne pas le faire, mais du coup elle me le fait payer d'une autre manière aussi.
C'est-à-dire, j'ai pas compris là, c'est une autre manière de quoi?
En atteignant les enfants.
Pourquoi est-ce qu'elle vous aidait financièrement?
Pour payer l'école privée.
Ah oui, mais c'est pas vous aider ça, c'est prendre en charge les enfants.
Là elle le fait plus hein.
Mais c'est curieux que vous disiez vous aider, c'est pas une aide, c'est simplement sa responsabilité vis-à-vis des enfants aussi.
Oui.
Quand on choisit de les mettre dans une école privée, ça se paye.
Ouais, ça se paye, mais bon, l'école, eux ne peuvent pas rentrer dans ça, ils veulent leur argent, quoi. Donc,
ouais. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle veut à ce moment-là? Si elle ne paye plus l'école et que vous arrêtez de la payer parce que vous ne pouvez plus, tout simplement, elle veut mettre sa fille où?
Ah, mais j'en ai aucune idée, il n'y a rien d'organisé.
Ouais.
Elle dit ça, moi elle dit, je ne paye pas, je m'en fiche qu'il reste là ou pas, mais il n'y a rien derrière.
Parce que ça s'organise quand même une rentrée scolaire. Même,
bien sûr.
On est quand même déjà
au
mois de juin bientôt, oui, bien sûr.
Et puis voilà, ma fille, l'année prochaine, elle est en troisième. Je ne veux pas la changer d'école à une année de la fin du collège.
Et oui, mais si vous ne pouvez pas la payer, cette école, vous allez faire comment? De votre côté, il y a une famille? Vous avez des parents qui sont présents?
Ils ne sont pas présents dans la région, mais ils sont près de moi, oui.
Ils vous soutiennent quand même?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette situation? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Je ne leur dis pas forcément tout, parce que... Il y a quand même un passif avec mon ex. Donc oui, ils prennent mon parti, mais bon, voilà. Ça va parfois un peu me peser ce qu'ils vont me dire, donc je me débrouille, je leur dis pas tout, en fait. Parce que le soutien, il n'est pas forcément comme je le voudrais, donc...
Il y a Sarah qui envoie un message en disant « Redites bien à vos enfants qu'ils ont une double culture et qu'ils sont encore jeunes pour décider. » C'est vrai que c'est un sujet à aborder.
Et en même temps, j'ai abordé ça en fait quand après le ramadan, je lui ai bien redemandé à ma fille si c'était elle qui... Voilà, je lui ai dit, tu sais très bien que maman, elle a ses croyances, etc. Mais toi, c'est ta mère, mais tu n'es pas née avec, tu as le droit de choisir. Tu as le droit de choisir, mais on n'a pas à t'imposer. Et tu sais que, voilà, chez maman, elle a son fonctionnement, ici, c'est différent. Et ça a toujours été comme ça. J'ai dit ça à mon fils aussi. Mais bon, j'ai l'impression que... Je ne sais pas comment c'est entendu, en fait.
Il y a Annie qui dit, c'est un peu ce que je vous disais, qui vous disait, même si c'est compliqué, il faut vous battre pour vos enfants, vous êtes le papa. Vous avez un rôle à jouer et vous n'avez, il n'y a aucune raison qu'elle vous enlève cette partie-là, vous voyez. C'est comme si elle cherchait à vous effacer petit à petit, progressivement.
Exactement. Ah, mais complètement. Ouais. C'est le sentiment que j'ai. Si elle pouvait, de toute façon, elle le ferait.
Et puis, il y a autre chose aussi à voir par rapport à votre fille, et ça, c'est difficile pour tout parent, mais c'est aussi de se dire qu'elle a des expériences à faire dans la vie et que vous ne pouvez pas les faire à sa place. Donc, à 14 ans, elle commence à être grande. Si elle décide d'aller chez sa mère, il y aura des conséquences. Et ces conséquences, elle aura à les assumer. Il faut qu'elle puisse comprendre ça aussi. Parce qu'elle fait la grande à 14 ans, elle veut prendre des décisions d'adulte. Il faut qu'elle sache que ces décisions ont une conséquence. Et il y a des choses qu'elle aura aussi à apprendre, mais que malheureusement, vous ne pourrez pas apprendre à sa place si elle prend cette décision-là. Et vous voyez, il y a Amélie qui envoie un autre message qui vous dit « Courage et force, cher Vincent. » Mais, pardon, je cherche parce que les messages, il y a beaucoup de messages de soutien qui arrivent pour vous. Et il y a quelqu'un qui vous dit « Voilà, tenez bon, cher Vincent, mais laissez faire votre fille sans acter par un dépôt de plainte. C'est l'équivalent à accepter la situation. » Et le juge aux affaires familiales pourra un jour le pointer. Ça pourrait se retourner contre vous, voyez, que vous laissiez faire les choses sans le signaler.
Mais donc, faut que j'aille... Il dit dépôt de plainte, c'est... donc je ne fais pas une main courante.
Au moins une main courante, si ce n'est un dépôt de plainte. Il faut que ce soit acté d'une manière ou d'une autre.
Moi, de toute façon, il faut que je demande à mon avocate. En fait.
Voilà, c'est ce que je vous disais. Et puis, il y a Amélie qui envoie un très gentil message qui dit donc « Courage et force, cher Vincent. J'aimerais bien être en contact par téléphone avec vous. Je vous aiderai, je vous soutiendrai. Soyez fiers de vous. Vous avez l'air d'être un super papa. Tenez bon. »
C'est gentil.
Et on a plusieurs personnes qui laissent leur numéro de téléphone, si vous le souhaitez, pour pouvoir entrer en contact avec vous et échanger. Ça vous ferait peut-être du bien aussi d'en parler. Peut-être même avec des papas qui ont vécu ça.
Ouais.
Mais vous voyez quand même la tendance globale des conseils, et c'est ce que je vous disais, c'est vraiment d'acter les choses, quoi. Et de ne pas vous laisser faire, même si j'entends... C'est pour ça que je vous dis peut-être vous faire aider psychologiquement. Alors, j'ose pas vous dire vous faire accompagner, parce que vous allez me dire que ça coûte des sous et je ne les ai pas pour l'instant. Mais au moins aller voir votre médecin généraliste pour vous booster un petit peu. Si vous en avez le besoin.
Je sais que je vais me remettre. Je me suis souvent relevé, hein, mais c'est quand même dur là. Et j'ai tellement été tout le temps là pour mes enfants et là de voir ce qui se passe, c'est.
C'est très injuste. C'est très injuste.
Oui, et puis c'est vraiment, c'est un cauchemar en fait.
C'est-à-dire que là, le problème est double. Il y a ce problème de religion différent, et puis il y a ce problème d'âge qui fait qu'effectivement, 14 ans, bah, malheureusement, c'est là où on arrive dans les galères, quoi, souvent. Déjà, quand tout se passe oui, entre guillemets, normalement. Donc, quand en plus, il y a des contentieux comme ça...
Ça, je m'y attendais, mais là...
Là c'est puissance 10, quoi, évidemment.
C'est tellement emmêlé que je ne sais même pas par où commencer. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ose pas faire un pas parce que... Pour l'instant, je n'admets pas la situation. Je ne l'ai pas acceptée, en fait. Mais elle ne m'a même pas laissé le temps de...
Je pense quand même, et j'espère que le fait d'avoir appelé pour m'en parler ce soir, c'est déjà un premier pas vers le fait que vous acceptez ce qui est. De toute manière, vous n'allez pas avoir le choix.
Ouais.
Et je comprends que vous soyez un peu encore en état de choc, mais je crains que cette faiblesse, une fois de plus, elle s'en sert, votre ex-femme. Si elle voit que vous ne réagissez pas parce que vous êtes abattu... Ben, vous serez une proie encore plus facile, vous voyez. Donc je pense que dans un premier temps, si vous pouvez vraiment appeler votre ex-avocate pour être conseillée vraiment sur le plan purement juridique, ça me paraît important. Elle vous donnera des bons conseils, c'est son métier. Ensuite, vous retapez-vous. Peut-être prendre quelques antidépresseurs, un peu de des choses qui pourraient vous faire du bien.
Ça, j'ai un peu de mal. J'aime pas les médicaments.
Mais vérifiez quand même avec votre médecin si vous tenez le coup sans, ça va. Si vous sentez que vous coulez, il ne faut pas hésiter à vous faire aider. Hein. Et si vous en avez les moyens, ça serait bien quand même de vous faire aussi aider en thérapie pour justement pouvoir travailler cette acceptation. Parce que tout ce que vous mettez, c'est une phrase que j'utilise souvent, mais là elle est vraiment, vraiment d'actualité, tout ce que vous mettez comme énergie à lutter contre, vous ne la mettez pas à construire pour. Là, vous luttez contre quelque chose qui est, qui existe. Vous ne voulez pas l'accepter. C'est un peu comme si vous étiez en boule. L'image que j'ai de vous, c'est un petit peu vous êtes en boule et dans un coin complètement assommé. Malheureusement...
Voilà, vous... ce soir, oui, mais c'est ce que vous dites, c'est vrai. Mais je lutte contre tout, en fait, depuis, je dirais, peut-être tout le temps. Depuis toujours, en fait.
Et oui, mais ça le souci, là, c'est que vous ne pouvez pas lutter contre quelque chose qui est. Voilà, c'est, malheureusement, c'est déjà dans les faits, c'est déjà acté. Votre fille ne vient plus. Elle ne respecte pas ce qui a été mis en place. Elle ne vous respecte pas.
Non.
Et il semblerait fortement qu'effectivement, elle soit manipulée par votre ex-femme. Donc ça, lutter contre ça, ça ne sert à rien, parce que ce sont des choses qui sont. C'est comme ça, point.
Oui.
Donc vous devez faire avec ce qui est à un moment précis. Aujourd'hui, c'est comme ça. Malheureusement, tout ce que vous avez construit jusque-là, ça ne change pas ce qui est aujourd'hui. Oui. Et donc, votre énergie, ça ne sert pas à grand-chose de la mettre là. C'est plutôt la mettre pour contrer ça, vous voyez. C'est comment faire, comment je peux faire au mieux avec ce qui se passe maintenant.
Oui, mais il faut que j'y croie, en fait. C'est que il faut que j'arrive à y croire à nouveau, parce que c'est dur.
Ah, il y a quelque chose, quelqu'un qui n'a pas signé, qui envoie effectivement un très bon conseil, j'avais oublié ça, mais c'est vrai. Vous savez que les écoles privées ont des fonds d'aide, de solidarité, qui fonctionnent très très bien quand on leur demande. C'est très discret, mais on peut aller voir le directeur ou la directrice d'une école privée et dire qu'on a des soucis financiers, et il y a un fonds de solidarité pour les parents qui ont des problèmes.
D'accord.
Ça peut aussi, dans un premier temps, c'est tout à fait vrai. Merci à la personne qui n'a pas signé, qui a envoyé ça. Ça, c'est tout à fait vrai, ça existe dans toutes les écoles privées, on ne le sait pas forcément. Mais il y a une solidarité pour soutenir les familles qui justement traversent des périodes où elles n'arrivent plus à payer. Ça peut être temporaire, on peut dire pour l'année qui vient, par exemple.
Oui, mais alors ça, il faut que je parle, alors, parce que par courrier, si vous voulez...
Non, bien sûr qu'il faut vous parler. C'est pour ça que à l'heure aussi, je vous disais, il faut aller leur parler à l'école.
Dans les papiers, on est en garde alternée, donc ils prennent les revenus des deux parents, même si... Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pour ça qu'il faut aller expliquer votre situation déjà verrouiller aussi. Je pensais pas à l'aide financière tout à l'heure, et vraiment merci encore à la personne qui nous a rappelé ça. Mais je pensais simplement à tout problème qui pourrait survenir. Imaginez que votre fille disparaisse à la sortie de l'école. Elle rentre pas chez sa mère. Un jour, elle doit être chez vous.
Ah mais oui, mais je pense qu'à ça. En fait,
et l'école vous dira, mais pourquoi vous nous avez pas dit qu'il y avait un souci?
Ouais.
Prévenir, c'est aussi vous protéger vous et elle contre ce qui peut arriver. Et en plus, c'est vrai que ça vous permet de demander une aide, au moins pour effectivement terminer le collège, dans ce collège-là. Terminer cette année troisième qui est quand même importante avant la transition au lycée.
Ouais, il faut que je prévienne l'école alors.
Et oui.
Ouais.
Et puis n'hésitez pas, parce que ce fonds de solidarité, il existe vraiment et il est là pour ça, justement. Pour les situations compliquées comme la vôtre.
Donc,
et je pense quand même que la clé à la base, c'est de vous retaper vous pour tenir le coup. Parce que là, je vous entends épuisé physiquement et moralement. Et il y a de quoi.
Oui.
Et vous savez, moi non plus, je ne suis pas spécialement pro-médicaments. Hein. Si vous m'écoutez, vous devez le savoir. mais quand même, de temps en temps, si vraiment ça, on sent qu'on coule, le taux de sérotonine, on a besoin de sérotonine. Et il n'y a que les antidépresseurs qui peuvent aider à le remonter. Hein. Même si c'est pas longtemps, mais un petit coup de pouce pour ne pas sombrer, pour tenir le coup maintenant. Réfléchissez-y quand même.
Oui.
Et si c'est pas des médicaments, c'est d'autres autre chose. Il y a peut-être d'autres techniques pour vous aider. J'en sais rien.
Oui.
Mais tenir debout surtout, parce qu'en face il y a quelqu'un qui a sorti l'artillerie lourde. Hein.
Ah, mais complètement. Et voilà, je tiens parce que mon fils il est là. Et je me raccroche, je ne veux pas dire raccroche à lui, non, mais...
Non, mais je comprends ce que vous dites.
Je tiens
à son
pour
amour,
lui, parce
quoi, bien
que
sûr, oui.
Il faut qu'il me voie bien, sinon il va s'inquiéter. Donc voilà, mais Après, c'est vrai que tout ça, tout ce dont vous m'avez parlé, quelque part, j'ai tout mis en tas et c'est tellement encore un gros truc à gérer que je...
Je sais que vous le saviez, mais je pense aussi que vous aviez besoin de vous l'entendre dire.
Ouais, c'est clair.
Ça démêle un peu les ficelles, justement, quelquefois. Bien sûr, on le sait, tout ça, j'ai rien inventé ce soir. Mais c'était un petit peu derrière sous le tapis, on va dire.
Ah, mais bien, j'ai essayé de le mettre sous le tapis, mais en fait, ça passe pas.
C'est bizarre, hein, même en tapant avec les pieds dessus, ça passe pas. Mais non, et je pense que même par rapport à votre fils, et même par rapport à votre fille, le fait de vous montrer droit dans vos bottes, combatif, et le plus serein possible, même si ce n'est qu'une façade, c'est extrêmement important aussi. C'est une façon de dire « je suis là, et je ne compte pas me laisser faire comme ça ». Mes enfants, je les ai faits avec une femme qui, certes, avait une autre religion que la mienne, mais c'est respectable dans les deux sens. Si moi, je respecte sa façon d'être et de vivre, elle doit respecter la mienne. Et c'est aussi vous montrer à vos enfants que vous êtes un papa qui, certes, est très arrangeant, extrêmement aimant, mais qui aussi sait ne pas se laisser marcher dessus.
Oui, et puis c'est vrai que, bon, on va dire, quelle que soit l'issue de cette démarche en justice, bon, déjà, ça va acter les choses, parce que, comme vous dites, c'est la réalité. Et puis, même si, au final, ça se passait pas bien, admettons, bah, j'aurais fait plus que le maximum et en ne faisant rien, ça pourra donner le même résultat. Donc.
Exactement. Une fois de plus, c'est pas en fuyant le problème que vous allez le résoudre, c'est en l'attaquant.
Ouais, mais bon, vous savez, je les ai tous attaqués les problèmes en pensant être tranquille, mais je suis jamais tranquille, donc c'est...
Et ça, malheureusement, vous avez un peu tiré le gros lot, là, j'ai l'impression. Mais en même temps, c'est une situation malheureusement extrêmement courante. Ces guerres-là sont terribles.
Bah, c'est surtout que je me suis fait avoir par les quelques années de entre guillemets tranquillité.
Bah, c'était un mariage d'amour quand même au départ de ce que j'ai entendu.
Ah bah pour moi oui.
Oh bah peut-être pour elle aussi. Enfin j'espère.
Oui
quand même.
Oui non mais je veux pas parler pour elle. Mais moi j'en suis certain.
C'était joli quand vous me disiez on a réalisé tous les projets qu'on avait en commun.
Ah,
vous
bah,
êtes
oui,
connus
oui,
jeunes,
oui,
vous avez
oui,
eu
oui.
des enfants, vous avez construit des choses. Donc tout ça c'est quand même important. Ça a existé au moins.
Oui,
c'est
oui.
Voilà c'est,
oui,
ça s'est pris. Ça a été pris et tant mieux. Oui. Malheureusement du fait de cette radicalisation, bah ces valeurs ont changé. Et des valeurs qui ont pu être partagées au départ sont devenues radicalement je cherche un mot qui n'existe pas, quand on a incohabitable, je voulais dire, vous voyez ce que je veux dire, qui ne peuvent pas cohabiter ensemble.
Oui, oui, non, mais c'est ça. Après, voilà, je pense à tout ce que vous m'avez dit là, mais peut-être aussi que cette démarche, ça fera aussi peut-être réfléchir ma fille. Elle va se dire mais pourquoi il fait tout ça, il y a peut-être une raison à tout ça.
Bah, à défaut de la faire réfléchir, peut-être vous avez raison, mais à défaut de la faire réfléchir, ça lui montrera aussi que vous avez un rôle à jouer et que dans la vie on ne joue pas comme ça non plus avec la justice et qu'on ne fait pas ce qu'on veut à du haut de ses 14 ans. Vous voyez.
Ouais. Mais c'est oui la question que je me oui ça je verrai du coup avec mon avocate, mais comment faire pendant tout ça du coup, parce que si c'est le chaos un peu comme ça. Je ne sais pas trop comment je dois réagir, en fait. Est-ce que je dois laisser couler ou alors être intransigeant? Mais ça va m'épuiser, en fait.
Non, je ne vous sens pas. Puis effectivement, j'allais vous dire, je ne vous sens pas être intransigeant, puis ce n'est pas forcément utile. Moi, je pense que les histoires juridiques ne la regardent pas. C'est-à-dire, ça, c'est entre votre ex-femme, votre avocate et vous. Vous n'avez pas à lui en faire part.
Non, mais je veux dire, si par exemple, elle ne vient pas un week-end alors qu'elle devrait venir, elle ne respecte pas les horaires, je fais quoi, moi
Vous le notez, simplement, vous notez bien tout ça sur un carnet.
Ok.
Ça, c'est déjà important, parce que l'air de rien, ça paraît bête, hein, mais on oublie les heures, on oublie
oui,
les
non,
jours.
Oui, non, mais ça, je me suis dit, il faut que je commence à tout écrire.
Ça,
là.
C'est essentiel aussi. Vous notez chaque jour, à chaque fois, effectivement, le concret, simplement, il ne s'agit pas d'étaler vos états d'âme, simplement juste le concret.
Oui.
Et je pense que pour l'instant, effectivement, là, pour le coup, il faudrait lâcher prise, parce que vous êtes fatigué.
Non, je dis rien.
Il y a des combats qu'il vaut peut-être mieux pas mener là tout de suite, et ça ne sert pas à grand-chose, vous l'avez compris. Vous énervez
non, mais
contre elle,
ça,
lui. Oui, ça marche pas.
Ça sert à rien. Moi, ça, de l'intérieur, moi, ça me...
Ça vous ronge.
Oui. Ouais. Ça me ronge, ça m'épuise. Alors, si je... peut-être qu'en disant rien, je vais pouvoir prendre du recul et...
Un peu de distance, un peu de saine distance, j'allais vous dire, justement pour vous préserver. C'est-à-dire agir d'un côté et lâcher prise de l'autre.
Oui.
Au moins un temps, il s'agit... Ce n'est pas une attitude à garder sur le long terme, mais là pour les semaines, les mois qui viennent, pour moi, il me semble que ça serait le meilleur équilibre à trouver. Lâcher avec elle.
Là, j'ai besoin de lâcher un peu pendant un petit temps parce que j'y arrive plus. Donc, je peux pas tout gérer tout ça. En plus, si elle vient, ça fait que l'ambiance à la maison, enfin, tout a changé en fait.
Éloignez-vous aussi un petit peu, c'est-à-dire passer du temps avec votre fils, même quand elle est là. Montrez-lui qu'elle, c'est pas elle non plus qui est le nombril du monde, vous voyez. Même quand elle est là, vous pouvez amener le petit au cinéma, ou sortir, ou dire voilà, ou faire venir des copains à lui, ou passer lui montrer aussi que vous êtes capable d'être heureux.
Oui, à la fois, ça, je me le suis dit ça. Après, bon, je me dis si elle est manipulée, quelque part, elle y est pour rien aussi.
Oui, mais vous ne pouvez pas tout gérer pour l'instant. Et là, une fois plus, ça va être à elle de faire son expérience.
Et vous, en même temps, elle m'entend pas, donc je suis obligé de la laisser aller faire son expérimentation.
Vous avez fait ce que vous pouviez de ce côté-là. Vous avez été extrêmement ouvert, extrêmement souple. Vous avez parlé. Vous avez instauré un dialogue. Elle ne veut rien savoir. Elle vous claque la porte au nez.
Ouais.
Donc il arrive un moment où il faut qu'une fois de plus qu'elle comprenne que ses actes ont une conséquence, auront des conséquences. Mmh. Et qu'elle fasse son expérience. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Peut-être que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, elle reviendra en courant chez vous en ayant pris conscience de certaines choses, ou peut-être pas. Mais il arrive à un moment donné...
Coup, c'est ça que je me disais à un moment donné. Peut-être qu'elle va revenir. Mais si j'enclenche des démarches...
Non, ça ne change rien. Et je pense qu'il faut que vous arriviez à séparer le tout ce qui est humain, moral, et tout ce qui est légal. Là, pour l'instant, comme vous
dites... De toute façon, au niveau légal, il faut que je me mette dans la légalité.
Ah ben complètement, parce que là, elle vous met en danger. Et ça pourrait se retourner gravement contre vous, d'ailleurs.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Et oui, parce que là, si elle ne respecte pas les règles et que vous vous mettez à son niveau à elle, c'est pas une bonne chose. C'est peut-être même ça qu'elle cherche, c'est à vous faire mettre en tort,
oui. Oui, c'est vrai.
Donc ça.
J'ai déjà pensé à ça, ouais.
Et oui.
Se me mettre en tort et après pour pouvoir m'attaquer.
Avoir des arguments contre vous très concrets.
Ouais.
Est-ce que vous avez des amis qui vous entourent là en ce moment? Des bulles d'oxygène quand même un petit peu?
Oui.
Oui? Bon.
Oui.
C'est important aussi de penser, malgré tout ça, au milieu de la tempête, de penser à des petits moments pour vous.
Oui, c'est vrai.
Passer un coup de fil à quelqu'un qui vous fait du bien, aller boire un verre avec un ami.
Oui. J'arrive à trouver. Enfin, j'ai des amis. Mais bon, je vois ce qu'il me reste à faire. En tout cas, je vous remercie. J'avais vraiment besoin de parler.
Ben, je suis là pour ça, Vincent. J'espère que ça vous a un petit peu apaisé et que ça vous a peut-être donné un petit coup de booster pour la suite. Et puis, si vous le souhaitez vraiment... Il y a plusieurs personnes qui ont laissé leurs coordonnées. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent l'émission en podcast, vous savez. Et qui donc probablement laisseront aussi leurs coordonnées par mail. Alors j'en profite, tiens, pour le rappeler. Si vous souhaitez entrer en contact avec quelqu'un qui vous a touché, comme ça a l'air d'être le cas avec Vincent ce soir, vous pouvez simplement envoyer un SMS au 739 21 avec le mot nuit, votre message et votre numéro de téléphone. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ou alors à n'importe quel moment, un mail, libreantenne en un seul mot, libreantenne@europe1.fr. Vous nous mettez un petit mot en disant que vous souhaitez être mis en relation, en l'occurrence là avec Vincent. Vous nous laissez votre téléphone et dans les jours qui viennent, enfin vendredi prochain, d'ailleurs plus précisément, Cindy et Nicolas, qui seront fidèles au poste, vous appelleront et vous donneront les coordonnées.
Okay.
Je pense que ça peut vous aider aussi de partager ça avec des gens.
Moi, il n'y a pas de problème. Ah. Hein. Plus je peux avoir de contacts...
Des gens bienveillants, des gens qui ont vécu l'expérience aussi.
Oui, le lien avec les autres.
Parce que vous savez qu'ensemble, on est toujours plus fort.
Oui, complètement.
Et puis je pense qu'effectivement, des papas qui se sont retrouvés dans la même situation, il doit forcément y en avoir. Et que peut-être ils auront, eux, des conseils encore plus avisés, vous voyez.
Oui, oui.
Pensez bien à l'école et à cette demande d'aide financière aussi, c'est important.
Oui, donc oui, il faut que je prévienne l'école.
Et n'ayez aucun scrupule à le faire et aucune honte. C'est, il est important qu'ils le sachent. Ça n'est pas votre responsabilité, c'est celle partagée de votre ex-femme qui est en train de lâcher les rênes. Et ce fonds de solidarité, s'il existe, c'est pour être utilisé. Donc il n'y a aucun souci avec ça.
Ok.
Ça s'appelle la solidarité.
Ouais.
Eh oui. Je vous souhaite plein de courage, Vincent.
Merci
beaucoup. Laissez-vous guider par votre cœur et par tout l'amour que vous avez pour vos enfants.
Bah oui, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné.
Ça, c'est votre phare.
C'est vrai que là, j'étais un peu perdu, du coup. Enfin, je le suis toujours, mais ça m'a vraiment fragilisé. Ça m'a touché ce qu'elle a fait. Ça m'a atteint vraiment parce que. Ouais, déjà c'était trop soudain et puis. Comme je lui avais dit, hein, parce qu'à un moment elle me disait je veux plus aller chez maman, je veux rester chez toi, et moi j'avais tout fait pour qu'elle.
Et oui, c'est pas juste, c'est ce qu'on se disait, c'est pas juste. Vincent, je suis désolée, il me reste quelques secondes pour terminer l'émission.
Ok, il n'y a pas de souci.
Merci de votre confiance. Je vous promets qu'on reviendra vers vous avec des coordonnées.
D'accord.
Et restez à l'écoute parce que ma phrase du jour, je vais vous la dédicacer dans quelques secondes.
Ah, merci, c'est gentil.
Je vous embrasse très fort, Vincent.
Merci, au revoir.
C'est terminé pour ce soir. Demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez. Moi, je vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, nous restons en contact sur la seule page Facebook que je gère et qui s'appelle Sabine Marin Public. Et donc, ma phrase du jour que je vous dédicace, mon cher Vincent, quand vous êtes triste, n'y faites pas attention. C'est votre partie heureuse qui se repose. Je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi.